Sud Radio, 10h, 11h, Natacha Harry.
À tous, je vois que je vous fais zozoter ce matin. Quel accueil, Gaspard. Je conseille d'ailleurs à nos auditeurs de nous regarder sur le site de Sud Radio. Vous allez voir, Gaspard est en pleine forme ce matin. Allez, on est ensemble pendant une heure, effectivement, pour parler de vos animaux, de nos animaux de compagnie, mais aussi de faune sauvage. Cette émission est la vôtre. Vous pouvez bien sûr appeler le standard, le 0 20 826 300 300, pour nous poser toutes vos questions. Et puis, cette semaine, nous allons débattre, notamment avec notre sujet faune sauvage. Alors, quel est le programme aujourd'hui? Eh bien, d'abord, en compagnie d'une consoeur vétérinaire, nous allons parler des médecines douces. Votre chien a de l'arthrose, votre chat a des problèmes de vomissement, voire même des problèmes de comportement. Vous ne le savez peut-être pas, mais les médecines dites douces peuvent être une alternative très intéressante pour les soigner. On va en parler dans quelques instants avec le docteur Sarah Debin, vétérinaire ostéopathe. 0826 300 300, vous pouvez d'ores et déjà nous poser toutes vos questions. Et puis donc dans notre séquence à l'état sauvage, on va s'intéresser ce matin à un sujet qui n'en finit pas de faire débat. Est-il possible de cohabiter avec les loups? Nous débattrons avec une grande spécialiste du loup, le docteur Véronique Ludini, qui est notamment membre du Comité national loup, un sujet brûlant au cœur de l'actualité, puisqu'un nouveau plan loup est en préparation au niveau du gouvernement. Si vous avez un avis sur la question, je vous rappelle notre numéro. Le 0 826 300 300. Et puis à la fin de cette émission, dans C'est votre histoire, nous allons parler des premiers pas d'un projet français qui est un projet formidable, initié par le papa d'un petit garçon atteint de diabète. Il souhaite former en France, car ça n'existe pas aujourd'hui dans notre pays, des chiens d'assistance pour les enfants diabétiques. Il va nous expliquer tout cela tout à l'heure. Mais tout de suite, on va démarrer avec notre rituel du début de cette émission, l'adoption de la semaine.
Sud Radio, vos animaux, l'adoption de la semaine.
Vous connaissez ce rendez-vous, comme chaque semaine, nous allons appeler un refuge pour qu'il nous présente un petit protégé à l'adoption. Nous allons prendre la direction ce matin du refuge SPA de Gennevilliers, en région parisienne, et je crois que nous avons Carole en ligne. Bonjour Carole.
Bonjour Natacha.
Alors Carole, comment ça se passe chez vous? Je crois que c'est un week-end important, hein. Ce sont les portes ouvertes cette semaine.
Tout à fait, c'est un week-end qui est très important, qui nous permet de faire connaître l'association et aussi qui nous permet de doubler, voire tripler le nombre d'adoptions.
Bon, Gennevilliers, c'est un très gros refuge. Vous avez combien de pensionnaires là en ce moment?
Là, actuellement, on a 130 chats et à peu près un petit peu moins de chiens. On a une centaine de chiens.
Alors, Carole, je crois que vous nous avez sélectionné parmi tous ces pensionnaires un chien qui est un petit papy. Est-ce que vous pouvez nous en parler? D'abord, comment s'appelle-t-il?
C'est Papilou.
Papilou.
Papilou, c'est...
C'est un très joli nom.
Oui, qui lui convient très bien.
Plein de douceur.
C'est un petit papy qui a 10 ans.
Oui. Il ressemble à quoi, Papilou?
Il ressemble à un petit shih tzu. Il est un petit peu gris avec des petits poils blancs liés à son âge. Il a une petite démarche à louper qui est très, très amusante. Et puis c'est surtout un chien qui est très affectueux.
C'est un chien donc qui n'est pas très jeune. Ça veut dire que vous le proposez dans vos adoptions en SOS. Peut-être pouvez-vous rappeler ce que c'est que les adoptions SOS, hein?
Alors les adoptions SOS, ça concerne les animaux qui ont un certain âge ou des pathologies. Du coup, il n'y a pas de frais d'adoption fixe.
Les gens peuvent donner ce qu'ils veulent en fait, c'est
voilà,
ça.
Voilà, c'est effectivement un don libre de la part des adoptants.
C'est pour favoriser les adoptions. Alors je rappelle à tous nos auditeurs que Papilou est visible sur la page Facebook de notre émission, également sur le site internet de la SPA de Gennevilliers. Allez le voir, vous allez voir, il a une petite frimousse très sympa, il est un peu poilu. Bon, moi je lui conseillerais quand même un petit toilettage pour qu'on voit un peu plus ses yeux, mais franchement, il a une super jolie tête, il est très mignon. C'est un papy tranquille, donc il n'attend qu'une seule chose, hein, une famille aimante dans laquelle il puisse finir ses jours de manière sereine. Carole, je vais me permettre de donner le numéro de téléphone du refuge de Gennevilliers, c'est le 01 47 98 57 40. Papilou vous attend. Allez voir ses photos, allez voir son descriptif. Et puis, il y a plein d'autres pensionnaires à Gennevilliers, des chiens, des chats, qui n'attendent que ça, trouver une nouvelle famille. Carole, on va vous rappeler tout à l'heure, à la fin de cette émission, pour avoir des nouvelles. Peut-être qu'un auditeur de Sud Radio vous aura contacté pour en savoir plus sur Papilou et peut-être lui offrir un nouveau départ. Je l'espère, en tout cas.
C'est tout ce
pour
aussi.
Ça que nous sommes là. Je vous dis à tout à l'heure, Carole. Merci beaucoup de nous avoir consacré un petit moment dans cette matinée bien remplie pour vous à l'occasion de ces week-ends portes ouvertes. Merci, Carole.
Sud Radio, vos animaux. Question veto.
On démarre avec un premier appel pour vous, Natacha. On a Pascal qui a composé le 0826 300 300.
Bonjour, Pascal.
Bonjour, madame.
Vous nous appelez d'où, Pascal ?
Moi, je vous appelle de la région parisienne, dans l'Essonne.
Très bien. Que puis-je faire pour vous ?
Ben voilà, ça serait pour avoir une question à ma, que je voudrais que vous m'éclaircissiez. J'ai un chien bon, que j'ai adopté il y a 5 ans. Oui. Et depuis le temps, il a toujours eu des problèmes d'otite, surtout à une oreille qui avait été un peu abîmée au cas d'un combat quand il était dans les refuges. Alors voilà, et c'est son oreille gauche et ça me paraît irrésolu. Mon veto avait tant...
Il a déjà été traité à plusieurs reprises pour ce problème d'otite.
Oui, plusieurs fois. Puis moi, je le traite, je lui nettoie les oreilles avec des produits bon, qu'on achète en pharmacie et puis des gouttes. Mais bon, apparemment, ça ne fait pas grand-chose.
Qu'est-ce que c'est comme chien, Pascal ? Est-ce qu'il a les oreilles tombantes ?
Oui, c'est un épagneul breton.
Ah, voilà. Donc, les chiens qui ont les oreilles qui retombent sont plus sujets que les autres aux problèmes d'otite. Alors, il faut savoir que ce sont des affections qui peuvent être extrêmement douloureuses pour les animaux. Donc, déjà, premier conseil, lorsque vous leur nettoyez les oreilles, faites très attention de ne pas vous faire mordre. Écoutez, Pascal, je pense que pour éviter ces problèmes de récidive d'otite, il faut vraiment que vous demandiez à votre vétérinaire peut-être d'aller faire un prélèvement pour essayer de déterminer l'origine même de l'otite chez votre chien. Parce que les otites peuvent être causées par différents facteurs. Parfois, il y a des surinfections qui viennent se greffer aux problèmes d'origine de base. Donc, pour les traiter le mieux possible, il faut savoir ce qui provoque ces otites. Et puis, en dernier recours, lorsque les otites sont vraiment chroniques, récidivantes, et que tous les traitements médicamenteux ont été essayés sans succès parce que les otites reviennent, on peut, dans certains cas de figure, envisager un traitement chirurgical. Donc là encore, seul votre vétérinaire va pouvoir vous conseiller, mais vous pouvez peut-être évoquer avec lui cette possibilité d'une chirurgie si vraiment votre chien fait des otites à répétition, parce que pour lui, c'est source d'un véritable inconfort. C'est extrêmement douloureux, c'est très déplaisant pour lui. Donc, évoquez cette hypothèse-là avec votre veto, Pascal. Voilà, merci infiniment pour votre appel, Pascal. Très bonne journée à vous.
Autre merci question, Natacha, envoyée cette fois-ci par mail sur jeparticipe@sudradio.fr. C'est Sylvie qui vous écrit. Elle vous dit « J'ai un labrador de 1 an. On lui a diagnostiqué une dysplaxie des hanches, surtout du côté droit. Il faut dire qu'il courait bizarrement en fait depuis un certain temps. Pensez-vous qu'il faut l'opérer, Natacha ?»
Alors, il s'agit d'une dysplasie, Gaspard. Dysplasie. Vous allez voir, pardon. À force de, ouais, de va, côtoyer
je vais
les vétérinaires
le vocabulaire
de cette émission,
oui.
Vous allez apprendre effectivement ce vocabulaire. Alors, c'est quoi une dysplasie déjà ? Il faut peut-être expliquer de quoi il s'agit. C'est une déformation de l'articulation. En l'occurrence, sur ce chien, il s'agit de l'articulation de la hanche qui, au cours de la période de croissance de l'animal, ne prend pas une forme normale. Donc, l'articulation ne joue pas pleinement son rôle. C'est extrêmement invalidant sur certains chiens. Ça leur provoque des douleurs et puis ça peut provoquer cette démarche un petit peu bizarre que nous décrit notre auditrice qui nous envoyer sa question sur jeparticipe@sudradio.fr. Écoutez, j'ai envie de lui répondre à Sylvie que si son chien, qui n'a que 1 an, a déjà des symptômes qui sont très évocateurs de cette dysplasie, il est effectivement conseillé d'opérer son chien parce que ça ne va pas de toute façon aller en s'améliorant. Et derrière, ça peut provoquer, si on n'intervient pas, ça peut provoquer des douleurs de plus en plus fortes avec de l'arthrose de plus en plus forte. Donc, Donc oui, je lui conseille vraiment de suivre les recommandations de son vétérinaire et d'opter pour cette intervention qui est une intervention que les vétérinaires qui font de l'orthopédie pratiquent extrêmement bien. Et puis, petit conseil très pratique, il faut aussi éviter que ce chien prenne trop de poids. Le surpoids, c'est un facteur aggravant pour ces animaux qui souffrent de dysplasie. Donc, un petit régime s'impose, en tout cas une surveillance de la prise de poids pour éviter que ce chien ne soit trop gros, surtout que c'est un labrador. Les labradors ont plutôt tendance à prendre un peu d'embonpoint. Et puis, il faudra qu'il continue à faire un peu d'exercice sans trop en faire non plus. Voilà, Sylvie,
c'est
merci.
C'est sérieux, la dysplasie, du
coup. Oui, c'est sérieux. Hein
oui, oui. C'était juste pour le redire.
Non, vous avez été parfait là sur le coup, Gaspard. Vous progressez très très vite. Merci Sylvie de nous avoir posé votre question sur notre adresse mail jeparticipe@sudradio.fr. Je vous rappelle que vous pouvez également nous envoyer vos questions 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ou si ce n'est pas par mail, ça peut être sur notre page Facebook ou sur notre compte Twitter. Voilà, j'ai absolument tout dit. Et on avait un petit jingle, mais qui a disparu. C'est pas grave, on va enchaîner tout de suite avec notre première séquence et ma première invitée. J'ai le plaisir de recevoir ce matin le docteur Sarah Debin, qui est vétérinaire et ostéopathe. Bonjour Sarah.
Bonjour Natacha.
Alors avec vous ce matin, on va parler des médecines douces. D'abord, première question un peu basique, c'est quoi les médecines douces ?
Alors les médecines douces, on peut aussi les appeler les médecines alternatives ou les médecines non conventionnelles. Elles regroupent les médecines autres que l'allopathie, c'est-à-dire la médecine vétérinaire classique qu'on connaît chez son vétérinaire traitant.
D'accord. Alors Sarah, on va se quitter quelques instants pour une petite page de pub et on se retrouve juste après, justement pour voir dans quelles circonstances on peut utiliser ces médecines-là chez nos animaux.
Sud Radio, vos animaux et vous.
Et voilà, on a retrouvé notre jingle qui nous a manqué tout à l'heure. Donc nous sommes ce matin en compagnie du docteur Sarah Debin, qui est vétérinaire ostéopathe. Sarah, l'ostéopathie, je pense que la plupart de nos auditeurs en ont peut-être entendu parler pour les chevaux, parce que c'est une pratique assez courante. Mais est-ce qu'on l'utilise aussi sur d'autres espèces animales ?
Oui, en fait, on peut l'utiliser sur toutes les espèces animales, que ce soit les grands animaux ou aussi les petits animaux, les chiens, les chats, les lapins.
Les chats, par exemple, ça se laisse bien manipuler ?
Oui, tout à fait. Oui, oui. Ils sont très réceptifs aux manipulations qu'on peut faire et participent aux soins.
Et dans quelles circonstances l'ostéopathie, par exemple, on va déjà commencer avec ça, est utile ? Dans quel cas ça peut aider l'animal ?
Alors, ça peut aider l'animal lors de certaines maladies, que ça soit au niveau locomoteur, que ça soit au niveau viscéral, au niveau comportement, au niveau dermatologique.
Ça peut l'ostéopathie, ça peut permettre de soigner des problèmes dermatologiques.
Alors, ça peut permettre en fait de limiter les crises. Et aussi d'agir, enfin, en agissant sur le terrain, en fait. Voilà, on a une approche globale dans ces médecines.
Alors, autant on comprend, je pense, assez aisément l'intérêt de l'ostéopathie pour les problèmes locomoteurs, parce qu'on a en tête des manipulations, on se dit que ça débloque un certain nombre de choses, mais sur toutes les autres maladies, dermatologie, problèmes comportementaux, problèmes viscéraux, comment vous pouvez nous expliquer que ça marche, que ça donne de bons résultats ?
Alors, on va dire par la définition même de ces médecines holistiques, c'est-à-dire que ce sont des médecines qui ont une approche globale de l'organisme. Donc, on ne va pas s'intéresser uniquement aux symptômes, on va s'intéresser à l'organisme dans son intégralité et aussi dans ses interactions avec l'environnement. Donc, par exemple, pour les problèmes de comportement, en améliorant physiquement l'animal, il va pouvoir mieux gérer ses émotions.
On a Eliane au standard de Sud Radio qui a une question à nous poser. Bonjour Eliane. Allô Eliane, est-ce que vous êtes avec nous ?
Oui, je suis là.
Bonjour Eliane. D'où nous appelez-vous ce matin ?
De l'Essonne, dans le 91.
Quelle est votre question Eliane ?
Alors voilà, ma question, j'ai ma sœur qui a un chat depuis 2 ans et demi, un chat blanc. Alors il paraît-il que c'est des chats qui sont plus fragiles, en passant vous me direz peut-être après, que les autres, mais elle a un problème avec ses oreilles depuis 1 an et demi.
Ah décidément, la matinée otite, des problèmes d'oreilles.
Otite sur otite, et le problème c'est qu'elle voit, elle a vu plusieurs vétérinaires, au moins 4, et alors il lui donne des traitements bien sûr qu'on donne couramment, hein. Mais le problème c'est que c'est dans ses oreilles qu'elle nettoie tous les jours, ou deux fois par jour, elle sort, mais alors des quantités de cérumen, comme de, moi je dis la cérumen,
oui, oui,
nous,
c'est
mais
ça.
C'est noir, mm-hmm. c'est noir, et épais et noir, et ça gêne énormément le chat, parce que quand elle est sans lui faire une journée ou deux, ça peut arriver, le chat, il se frotte partout, on sent qu'il n'est pas bien, il ne dort pas bien, et alors quand elle lui met les gouttes pour lui diluer, pour lui un petit peu faciliter avant le nettoyage, elle lui enlève des paquets et des paquets, mais c'est impensable.
Alors,
je vous assure,
on va demander au docteur Sarah Debin s'il existe un moyen de prendre en charge ces problèmes d'otite, et puis ça va aussi intéresser notre auditeur précédent, Pascal. Est-ce qu'on peut soigner ces problèmes d'otite par d'autres méthodes que les traitements classiques que l'on administre dans les oreilles?
Oui, tout à fait. Donc, c'est même un exemple intéressant. C'est dans les exemples où l'allopathie peut échouer et on peut trouver des solutions avec les médecines complémentaires. Donc, on peut intervenir de différentes façons. En ostéopathie, parce que, en fait, souvent, ce sont des animaux qui vont avoir des restrictions de mobilité au niveau des os du crâne, notamment au niveau des os temporaux. Et ça va favoriser, on va dire, l'accumulation de cérumen. Ça va faire un mauvais drainage de l'oreille. Et donc, favoriser la prolifération bactérienne ou de champignons et donc l'otite. Voilà. Après, on peut aussi faire appel à l'acupuncture pour, dans un objectif aussi de réguler le fonctionnement au niveau des temporaux, des oreilles, le fonctionnement global.
Et là encore, les animaux se laissent bien faire quand on leur plante des aiguilles.
Alors, on peut travailler ou en acupuncture en plantant les aiguilles ou en digipuncture avec les doigts.
Donc là, c'est simplement une pression des doigts.
Tout à fait, oui. Mais ça se passe très bien quand on est dans les points qui ont besoin de soins, dirons-nous. Il y a une très bonne réaction de l'animal.
En fait, parce qu'ils sentent que ça les soulage.
C'est ça, tout à fait.
Ils se laissent faire.
Oui. Oui, oui. Donc, bien sûr, on prend le temps de faire connaissance avant. Hein, le temps de prise de contact est très important pour toutes ces
médecines. Et par exemple, dans le cas précis du chat dont nous parle Eliane, combien de séances faudrait-il, à votre avis, sans avoir vu l'animal, bien évidemment, faire pour obtenir des résultats probants?
Alors, on va dire généralement, on part sur trois séances sur trois mois. Voilà, donc une séance par mois, tous les mois, pendant trois mois.
Eliane, voilà une solution à essayer. Donc, conseillez à votre sœur de trouver un vétérinaire ostéopathe qui puisse proposer ce type de traitement alternatif. Effectivement, moi, je vous confirme que ça donne vraiment de très, très bons résultats sur plein de pathologies auxquelles on ne pense pas forcément. On a en ligne une jeune femme qui pratique une autre alternative, en fait, une autre médecine dite douce, c'est le shiatsu. Bonjour Isabelle Legentil.
Oui, bonjour Natacha.
Alors Isabelle, donc vous êtes praticienne shiatsu, vous n'êtes pas vétérinaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà ce qu'est le shiatsu et puis dans quel cas de figure ça peut présenter un intérêt pour les animaux?
Alors le shiatsu fait partie des grands principes de la médecine chinoise, tout comme le douyin ou l'alimentation. C'est une méthode douce. Qui permet, en fait, pour résumer, d'entretenir ou de stimuler le système immunitaire, c'est-à-dire qu'on aide l'animal à trouver en lui les ressources nécessaires pour résoudre le problème qu'il a au moment J quand on...
Mais ça, ça paraît assez abstrait. Concrètement, ça se déroule comment, une séance avec vous?
Alors, concrètement, c'est des pressions par les doigts. Nous travaillons sur l'ensemble des méridiens, c'est-à-dire des tracés qui sont dessinés sur l'ensemble du corps de l'animal. Ça a été dessiné par des Chinois et c'est une cartographie, si vous voulez, qui correspond à des organes et des viscères. Et notre travail, c'est de stimuler la circulation dans ces méridiens, de débloquer les tensions pour que la circulation se fasse de façon harmonieuse à travers le corps.
Et dans quel cas de figure ça peut présenter un intérêt pour les animaux? Citez-nous peut-être quelques exemples très concrets.
Alors concrètement, l'avantage de cette technique, c'est une approche globale, c'est-à-dire qu'on travaille sur le corps physique, mais aussi sur le mental. Alors concrètement, je vais vous donner quelques exemples. Ça peut être tout simplement un drainage hépatique, parce que l'animal a eu un traitement allopathique un peu lourd, il a eu des opérations, et puis bon, il voulait éliminer les toxines. Donc là, c'est dans un cas un petit peu léger. Vous pouvez avoir des soucis d'ordre de physique comme l'arthrose, les problèmes ligamentaires, des boiteries, des problèmes digestifs, des problèmes allergiques. Mais à chaque fois quand vous allez faire une séance shiatsu sur des problèmes physiques, vous aurez un effet sur le comportement de l'animal. Pour être plus clair, par exemple, si vous travaillez le foie, généralement, même l'humain d'ailleurs, hein, c'est la même chose, l'animal va être un petit peu plus colérique ou un peu moins patient. Une fois que vous avez rétabli et drainé le foie, l'animal va être plus apaisé, plus serein, plus disponible.
Isabelle voilà. Legentil, je vous remercie beaucoup pour ces explications. Docteur Sarah Debin, vous confirmez, vous aussi, finalement, ça reste dans la même ligne que ce qu'on vient d'entendre là?
Oui, tout à fait. On est dans une médecine douce, une approche globale de l'organisme. Là, c'est très proche.
Il ne faut pas faire l'économie de ce type de pratique pour traiter nos animaux parce que ça marche réellement et parfois, c'est une aide aussi très précieuse en complément des traitements plus classiques.
C'est ça, c'est ça. Ça peut être une approche unique ou une approche complémentaire. Voilà. Et vraiment, il ne faut pas oublier qu'on peut apporter un autre regard sur son animal et apporter d'autres solutions thérapeutiques.
Bon, j'espère que ce message est bien passé ce matin. Je précise plutôt le nom de votre site qui est vraiment plein d'informations très intéressantes sur ce sujet. Le site porte votre nom, c'est saradebin-ostéovet.fr. Voilà, si nos auditeurs veulent se renseigner sur toutes ces pratiques, n'hésitez pas, allez voir ce site saradebin-ostéovet.fr.
Sud Radio, vos animaux et vous.
Vos animaux, cette émission est la vôtre. Pour nous joindre, un seul numéro, le 0826 300 300. Et justement, on a Valentine qui a composé le numéro de notre standard. Bonjour Valentine.
Bonjour.
Je crois que vous avez une question pour le docteur Debin. Nous vous
Exactement.
Écoutons.
C'est bien ça. En fait, j'ai un jeune chiot que j'ai adopté il y a 3 mois. Il s'avère qu'il est très, 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 très turbulent. Donc même la nuit, il fait le foufou. Il saute sur tout le monde. Il se sauve du jardin. Donc je me demandais s'il y avait des petites solutions en termes de médecine douce, juste pour le calmer un petit peu et faire en sorte qu'il soit un peu moins turbulent.
Docteur Debin ?
Oui, alors là, ça sera intéressant de travailler en complémentarité avec votre vétérinaire et éventuellement un éducateur canin pour vous aider à gérer le quotidien. Mais que ça soit en ostéopathie ou en phytothérapie, on va pouvoir l'accompagner. Donc en ostéopathie, l'aider au niveau, parce que vu qu'il est en croissance, c'est vrai qu'il doit se passer beaucoup de choses dans son corps. Donc aider à libérer les tensions, lui permettre d'avoir une croissance harmonieuse, être moins stressé. Et puis en phytothérapie, l'aide des plantes pour l'apaiser.
Voilà, Valentine, vous avez une partie des solutions. Et puis effectivement, l'éducation, c'est important aussi. Hein. Il ne faut pas oublier ce volet-là. Merci infiniment pour votre appel.
Merci à vous.
Docteur Debin, je vous remercie aussi de votre présence, de toutes ces explications sur ces médecines douces. Vous exercez à Perpignan et je rappelle une fois de plus les coordonnées de votre site internet extrêmement bien documenté. C'est saradebin-ostéovet.fr. Merci pour votre présence.
Merci Natacha.
Je vous rappelle, vous qui êtes les auditeurs fidèles de Sud Radio, qu'il y a un petit papy qui attend de trouver sa nouvelle famille. Il s'appelle Papilou, c'est un adorable petit chien. Il a une dizaine d'années et il est au refuge de Gennevilliers. N'hésitez pas à vous rendre sur la page Facebook de notre émission pour aller voir sa photo et son descriptif. Il est même 10h30 passé, j'ai un peu de retard. C'est l'heure de notre séquence à l'état sauvage.
Sud Radio, vos animaux à l'état sauvage.
C'est un sujet qui fait débat, qui fait polémique même, les pro-loups d'un côté, les éleveurs de l'autre qui se plaignent de voir leurs brebis tuées par ce grand prédateur. Pas facile de prendre du recul et pourtant c'est ce que nous allons essayer de faire ce matin. Pour parler du loup, j'ai invité une consoeur, encore une vétérinaire, et oui, que l'on surnomme la veto des loups. Merci Véronique Ludini d'être avec nous ce matin sur l'antenne de Sud Radio.
Bonjour Natacha.
Bonjour, vous êtes donc vétérinaire, je le disais, vous êtes également membre du comité national loup, membre du comité national de protection de la nature et grande spécialiste du loup. Alors si je schématise un petit peu, le loup, soit on est absolument pour, soit on est absolument contre. Pas facile donc d'avoir autre chose qu'un regard manichéen sur ce sujet. Vous êtes un petit peu au milieu de tout ça parce que vous connaissez particulièrement bien cet animal, vous l'étudiez depuis des années et en même temps vous travaillez avec des bergers qui malheureusement déplore trop souvent des pertes importantes. En ce moment, le gouvernement essaie de réunir tout le monde autour de la table pour élaborer un plan loup. C'est quoi exactement l'objectif de ce plan loup, docteur Ludini ?
Alors oui, en effet, le nouveau plan loup qui sera amené à commencer en janvier 2018, en fait, vise à apporter des améliorations en faisant une expertise de tout ce qui s'est passé ces 25 dernières années. Parce que comme tu l'as exactement dit, la problématique, c'est pour ou contre. Le nouveau plan va essayer d'accompagner plus les éleveurs, donner plus de moyens aux éleveurs, et en même temps avoir plus de recherches, plus de recul scientifique sur comment fonctionne une meute de loup, pourquoi elle attaque, pourquoi particulièrement à certains endroits, vraiment aller plus dans la science. Le rôle du Comité national loup, c'est trouver des solutions pour faire en fait fonctionner les obligations européennes de protection de l'espèce loup, parce que c'est une espèce
c'est
protégée.
C'est une espèce protégée, oui, il
voilà,
faut le rappeler.
Et en fait, le côté manichéen vient du côté politique qui dit il faut protéger le loup. Donc ça, c'est une évidence. Alors, ce serait facile, en fait, dans ces cas-là, on laisse croître le loup. Mais en même temps, il faut faire attention au pastoralisme.
Bien sûr.
Nous, qui sommes vétérinaires, on sait très bien que tous les animaux ont leur importance, qu'il faut essayer de faire cohabiter ce monde-là. Et c'est toute la problématique, en fait, de l'intersection de zones sauvages, les fameux corridors biologiques, et qui sont en même temps les mêmes zones de grand pâturage de l'élevage ovin en extensif en été. Voilà.
Combien de loups dénombre-t-on aujourd'hui en France ?
Alors, le nombre a été déterminé autour de 360. Il y a en fait une fourchette qui va de 265 à 402 exactement. Hein. Ça, c'est les agents de l'ONCFS qui la déterminent en récoltant les crottes de loups, en fait. Il y a des agents qui sont sur toute la France et comme le loup est en extension, c'est normal, hein, puisqu'il est parti d'Italie et puis il est revenu en France.
Alors voilà, c'est la question que j'allais vous poser. Les loups que nous avons aujourd'hui en France, ce ne sont pas des loups qui ont été importés par l'homme, ce sont des loups qui sont venus coloniser notre territoire ?
Ah, tout à fait. Alors ça, c'est important parce que dans l'image...
Il n'y a pas eu de relâché, quoi, de loups.
Pas de relâché du tout. Les loups viennent vraiment d'Italie. En fait, en Italie, il y a un programme de protection. C'est le programme Saint-François d'Assise qui a commencé en 1973. En fait, ça se comprend puisque les Italiens sont très attachés à l'image du loup. Il y a
bien
Romulus
sûr.
Et Romulus.
Forcément.
Alors, voilà, donc forcément. Il y a un attachement qui est quelque part de l'ordre culturel, alors que nous, en France, c'est plutôt le petit chapeau rond rouge. Donc, on peut comprendre un petit peu le fait que nous, notre dernier loup est disparu en 1925, à peu près, 1930, et alors que eux, dès, en fait, 30 à 40 ans plus tard, ils ont mis un programme de protection. Donc, le noyau de loups qui était resté en Italie, qui sont des Canis lupus italicus, en fait, ils pouvaient pas descendre sur la botte italienne, ils sont remontés par l'arc alpin, ils ont pris ces fameux corridors biologiques, et ils sont arrivés sur le parc national du Mercantour, qui est à l'entrée de la porte italienne, et bah, c'était génial pour eux, parce qu'il y avait des mouflons, des brebis, des chevreuils, des cerfs, voilà.
Beaucoup d'animaux à manger, et malheureusement aussi les moutons des éleveurs. Aujourd'hui, docteur Ludeny, les loups sont présents dans quelle zone géographique en France ?
Alors, la zone, maintenant, il y a 22 départements. Si on prend, en fait, on fait une diagonale en France, on part des Pyrénées et on remonte jusqu'au Jura. Dans toute cette zone-là, on pourrait considérer qu'il y en a vraiment Alpes-Maritimes, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Haute-Savoie, Jura, Lozère, Ardèche, Aveyron. Et on a aussi des zones de présence en Aude, dans les Pyrénées-Orientales. Et maintenant, on en a aussi en Meurthe-et-Moselle, on a certains foyers.
Donc, ils sont en train de remonter de plus en plus et de coloniser une grosse partie du territoire français. Comment vivent-ils ?
Oui, mais que sur des zones de corridors biologiques. Il faut vraiment insister là-dessus, c'est-à-dire que c'est vrai que la France est très verte. Et en fait, partout où il y a des moutons, et ça correspond aux zones d'élevage ovin.
C'est bien ce qui pose problème.
Voilà, exactement, c'est bien ce qui pose problème. Ouais.
Comment vivent-ils ces loups qui sont sur notre territoire ? Est-ce que ce sont plutôt des loups solitaires qui sont en train de conquérir de nouveaux territoires ou est-ce qu'ils ont déjà constitué des meutes ?
Alors oui, il y a en fait 44 meutes. Ça peut paraître énorme, hein, mais c'est normal. Il y a 57 zones de présence permanente de loups, en fait, qui correspondent à ces 22 départements. Et là, il y a 44 meutes qui sont vraiment ciblées, installées, territorialisées, hein, puisque une meute, c'est un territoire. Et à côté de ça, comme tu le disais, eh ben, il y a des jeunes loups en dispersion. Et c'est eux qui vont coloniser les nouveaux territoires. Et en fait, pour faire du brassage génétique, certains loups en dispersion vont rencontrer un autre loup en dispersion. C'est des mâles ou des femelles, indifféremment, hein, qui sont des jeunes loups en dispersion. Ils vont recréer des meutes si les endroits sont bons, c'est-à-dire si le biotope est bon, s'il y a de quoi manger.
Alors, de manière un petit peu simple et rapide, même si le sujet est compliqué, comment pourrait-on arriver à faire cohabiter les éleveurs d'un côté qui ont forcément des contraintes économiques et qui ne veulent pas voir leurs troupeaux de brebis massacrés par les loups et ces loups qui sont des animaux protégés, on le rappelle, et qui ont leur place dans l'environnement.
Alors, c'est vrai que c'est pas simple. Je pense que ça passe par de l'intelligence et du compromis. J'espère vraiment qu'on va y arriver. Et le tout, c'est de mieux accompagner les éleveurs, parce que vraiment, la majorité des éleveurs font un énorme travail de protection, mais les aider dans des mesures d'accompagnement, avec par exemple...
De quelle manière ?
Nous, en tant que vétérinaires, c'est qu'on essaye de privilégier également les chiens de protection. Il y a les chiens de conduite, oui, qui vont permettre de faire revenir le troupeau, et puis le chien de protection qui va, lui, vraiment protéger contre le loup. Et en fait, cette filière, elle est pas encore optimum en France.
Et ces chiens sont réellement efficaces pour protéger un troupeau ?
Oui, alors ça fait partie de toutes les mesures. En fait, pour faire ces compromis, il y a vraiment plusieurs mesures. Mais ça, c'est une mesure qui est importante et qu'il va falloir valoriser et vraiment augmenter l'efficacité de cette filière chien de protection. C'est hyper important. Après, il y a l'accompagnement d'éleveurs parce que le trouble, il est psychologique. C'est très anxiogène de vivre
bien
sur une zone à loup.
Sûr.
Donc, il faut les accompagner. Donc, nous, en tant que vétérinaires, quand on soigne leur troupeau, on les accompagne, on discute, on essaye de relayer leur stress, d'essayer d'optimiser les moyens de protection. Ça passe par de meilleurs endroits pour dormir, pour protéger la nuit, par des bergers qui vont les aider, par des personnes qui vont aller relayer leurs problèmes, se dire est-ce que cette année je reste sur cette zone de pâturage-là ou l'an prochain je vais aller ailleurs.
Finalement, on a perdu l'habitude de cohabiter avec le loup. C'est peut-être ça l'une des difficultés.
Ah mais tout à fait, Natacha, je te rejoins complètement là-dessus parce que en fait pendant 60 ans il y a eu une absence de loups complète et en fait il y a eu un élevage extensif et le berger ne montait qu'une fois par semaine, il avait que des chiens de conduite et petit à petit en fait c'est ce qu'on appelle les changements de paradigme en psychologie, c'est très compliqué parce qu'il faut tout changer et en fait le changement il est long, il est progressif, là on va dire qu'on a 25 ans de recul par exemple nous dans les Alpes-Maritimes avec ça, c'est quand même toujours compliqué mais les choses se mettent en place petit à petit, mais dans les zones de colonisation, ces fameux fronts de colonisation où les loups arrivent, ben c'est toujours un choc psychologique pour l'éleveur. Donc l'accompagnement, il doit être autant technique, parce qu'il y a plein de choses à mettre en place pour aider à protéger, que psychologique. Hein. C'est normal, sinon on nous change tous nos paramètres de vie, c'est compliqué. Et en même temps, il faut qu'il y ait cette fameuse part du loup, la part du lion. Il faut aussi accepter des fois que, bah oui, il y a certaines hobbies
qui
viennent se nourrir, parce que c'est aussi penser à demain, penser à nos enfants, penser à la biodiversité. C'est sûr qu'on est éleveur et qu'on élève des brebis, c'est compliqué. Mais on
bien
essaie
sûr
aussi de leur faire comprendre ça sur le terrain. Je pense que nous, vétérinaires, qui ne devons pas prendre parti pour tel ou tel animal, hein, il y en a un qui est peut-être plus charismatique que l'autre, mais les deux sont utiles à une chaîne alimentaire. Il y a vraiment une pyramide de la biodiversité. Faire aussi comprendre ça au niveau des éleveurs, et je pense qu'ils sont vraiment aptes à le comprendre.
Véronique Ludeny, merci infiniment pour cet éclairage très très intéressant. On se tutoie parce qu'entre vétos, en fait, c'est
oui,
une tradition théoriquement. Merci Véronique pour toutes ces explications extrêmement passionnantes. On comprend bien que le sujet est très difficile. Alors maintenant, je vais passer la parole à Gaspard. C'est sa mission chaque samedi, vous le savez dorénavant. Il a 1 minute 30 pour nous apprendre tout ce que l'on ne sait pas encore sur le loup.
Alors Natacha, il y a 1000 choses à dire sur le loup, mais on va se focaliser ce matin sur un aspect de sa vie sociale, l'esprit de groupe, la force de la meute, si vous voulez. Entre crainte et admiration, aucun autre animal n'a suscité autant de sentiments contradictoires dans l'histoire de l'humanité. Une chose est sûre, le loup fascine. Ceux qui l'étudient sont subjugués par la force du groupe et leur capacité à mettre chaque individu au service du collectif. Un seul mot d'ordre chez les loups, assurer la survie du plus fort tout en prenant soin des autres. Le couple le plus solide, le plus intelligent est protégé par le reste de la meute. Information importante, c'est le seul habilité à se reproduire. C'est aussi lui qui aura accès aux meilleurs morceaux des proies tuées par le groupe. Ce couple dominant que l'on appelle aussi le couple alpha reste généralement en retrait derrière ses subordonnés qui sont envoyés en éclaireur. La femelle gestante ne participe généralement pas à la chasse pour ne pas mettre en danger sa progéniture. Vous le voyez, Natacha, tout est fait pour préserver le couple plus fort ainsi que sa descendance. Les jeunes ayant des velléités de reproduction sont écartés du groupe et devront alors former leur propre meute ailleurs, ce qui limite les problèmes forcément de consanguinité. Les règles de la hiérarchie empêchent généralement les loups de se battre entre eux. Le combat physique peut entraîner des blessures chez le dominant qui se verra alors affaibli. Il préfère donc asseoir son autorité par des marquages territoriaux et par de l'intimidation. En revanche, entre meutes, des rivalités féroces et des combats peuvent apparaître. Vous l'aurez donc compris, chez le loup, la puissance du collectif est au service du couple dominant qui assure lui la pérennité de l'espèce.
Merci. Franchement, vous m'épatez chaque semaine. Hein. Vous
oui
allez devenir un spécialiste des animaux. Bravo, merci à vous. On se retrouve dans quelques instants après une petite page de pub.
Vos animaux sur Sud Radio, c'est votre histoire.
Et oui, comme chaque semaine, nous allons mettre en avant une fois de plus cette magnifique relation homme-animal. Et cette semaine, dans C'est votre histoire, il est question de chiens d'assistance pour enfants diabétiques. Arnaud Bertrand, bonjour. Vous êtes en ligne ce matin avec nous sur Sud Radio.
Bonjour Natacha.
Alors Arnaud, vous êtes fondateur d'une association qui s'appelle Acadia. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer ce qu'est cette association ?
Acadia est donc une association que nous avons créée il y a 2 ans et dont l'objectif est de former les premiers chiens d'assistance et chiens d'alerte pour les personnes et les enfants diabétiques.
Alors il faut préciser que vous êtes le papa d'un petit garçon qui a 11 ans je crois et qui justement souffre de diabète. D'où vous est venue cette idée d'utiliser des chiens pour aider votre petit garçon et pour vous aider vous aussi dans votre quotidien, dans la gestion de cet enfant diabétique ?
Tout à fait. Donc, ma femme et moi sommes les parents de Théovic, qui aujourd'hui a 11 ans et qui est diabétique de type 1 depuis l'âge de 2 ans. La découverte du diabète est toujours un événement assez traumatisant pour le malade bien sûr, pour l'enfant, mais aussi pour la famille. Nous avons cherché les solutions pour essayer de l'aider au quotidien et de nous aider aussi. Et nous avons trouvé effectivement qu'il existait à l'étranger des chiens qui étaient capables de détecter les hypoglycémies, de donner l'alerte, donc de sécuriser les enfants pendant la nuit et puis d'aider au quotidien. Donc,
alors peut-être que pour comprendre ce que peuvent apporter ces chiens, il faut que vous nous expliquiez à quoi ressemble le quotidien d'un enfant diabétique et donc de sa famille, de ses parents. Quelles sont les choses les plus compliquées pour vous à gérer ?
Le diabète, c'est une maladie avec laquelle on vit, mais qui a beaucoup, beaucoup de contraintes. La première des contraintes, c'est qu'on doit surveiller constamment la glycémie en faisant ce qu'on appelle des dextros,
oui.
Qui permettent de connaître la glycémie de
l'enfant. La glycémie, hein, c'est le taux de sucre dans le sang et c'est ce qui varie dans les cas de personnes souffrant justement de diabète.
C'est ça, tout à fait. Dans le cas du diabète de type 1, l'organisme ne produit plus d'insuline qui ne permet plus l'assimilation du glucose par l'organisme. À partir de là, il faut effectivement injecter de l'insuline. Pour injecter les bonnes quantités d'insuline, on est obligé de contrôler la glycémie pour savoir si on doit en mettre un peu plus ou un peu moins. Donc, on va faire entre 7 et 10 contrôles glycémiques par jour, le jour, mais aussi la nuit. Donc, très concrètement, moi, je me réveille 1, 2, 3 fois par nuit pour surveiller que mon enfant soit aux bonnes glycémies et corriger celle-ci le cas échéant.
Parce que s'il ne l'est pas, qu'est-ce qui se passe ?
Alors, si la glycémie est trop haute, on n'aura pas de bonne valeur et on a des complications à long terme. On peut avoir des complications au niveau des yeux, au niveau nerveux, au niveau de la sensibilité des membres. Si la glycémie, elle, est trop basse, on peut résulter sur un coma hypoglycémique. Et il est assez fréquent que ces comas peuvent arriver, on va dire, chez certains enfants 2 à 3 fois par an. Un coma hypoglycémique, pour une glycémie qui serait très basse, résulte sur environ une semaine d'hospitalisation. Et dans tous les cas, c'est traumatisant pour l'enfant et aussi pour la famille.
Alors là, on a bien compris, Arnaud Bertrand, le contexte de vie avec un enfant diabétique. Mais en quoi un chien peut vous aider dans votre quotidien ? C'est ça qui est difficilement perceptible.
Donc le chien a plusieurs objectifs. La première, c'est de mettre les personnes en sécurité. Ces chiens sont éduqués pour détecter et alerter l'enfant ou les proches en cas d'hypoglycémie sévère, en cas de
crise. Et comment le chien s'en rend compte ?
Alors, nous, on l'entraîne à identifier les odeurs caractéristiques de l'hypoglycémie. On ne sait pas aujourd'hui encore qu'est-ce que le chien sent réellement, mais il suffit d'utiliser des échantillons qu'on prélève sur l'enfant pour entraîner le chien à avoir une action lorsqu'il sent cette odeur-là. Donc lorsqu'il sent cette odeur-là, que ce soit la nuit ou le jour, le chien va venir alerter en posant sa truffe contre la jambe de l'enfant pour lui dire « Attention, là, il se passe quelque chose, il faut que tu contrôles ta glycémie. » Si effectivement l'enfant ne réagit pas, dans ce cas-là, il va avoir d'autres réactions.
Il est, par exemple, capable de le réveiller pendant son sommeil ou d'aller réveiller les parents.
Tout à fait, c'est ça. Donc on l'entraîne à avoir des réactions, des actions spécifiques en cas d'hypoglycémie. Donc ça va être effectivement de réveiller l'enfant, d'aller réveiller les parents ou peut-être d'autres actions à faire, d'aller lui chercher des tablettes de glucose, d'aller chercher un téléphone, d'appuyer sur une téléalarme, etc.
J'imagine que pour un enfant qui qui souffrent comme ça d'une maladie extrêmement compliquée et invalidante au quotidien, être accompagné en plus d'un chien, c'est quelque part une forme de récompense pour supporter tout cela, tout ce quotidien difficile. Hein.
Tout à fait. La médiation animale est un élément très très important. Dans le diabète, le facteur émotionnel joue beaucoup. Lorsqu'on est bien, on a des glycémies qui sont meilleures. Avoir un compagnon à qui on peut confier son état émotionnel, ses difficultés, ses souffrances et autres, peut avoir effectivement un effet. Le fait de s'occuper aussi d'un animal est un facteur très stabilisant pour les enfants. Donc l'aspect médiation animale est particulièrement important dans le cas du diabète et on est convaincu que la présence d'un chien à proximité, en plus de la sécurité, va contribuer à améliorer l'équilibre glycémique et aussi à favoriser le bien-être psychologique de l'enfant, qui aura forcément un effet sur le long terme, sur l'acceptation de la maladie et aussi sur la prise en charge de la maladie. Un enfant qui s'occupe d'un animal, il est souvent plus responsable et il prendra ainsi mieux en charge la gestion de son diabète.
Arnaud Bertrand, je rappelle donc que vous êtes fondateur de cette seule et unique association française qui s'appelle Acadia et qui a pour projet de former des chiens d'assistance pour les enfants diabétiques. Vous me disiez en introduction que cela existe dans d'autres pays. Où ce type de chien existe-t-il et comment sont-ils formés et remis aux enfants? Comment se passe derrière le quotidien avec le chien?
Alors, ces chiens, effectivement, ont été formés en premier lieu depuis une dizaine d'années, principalement outre-Atlantique, États-Unis et Canada. Mais en recherchant un peu mieux, on a trouvé qu'effectivement, il y en avait un petit peu partout en Europe. Seule la France, effectivement, ne dispose actuellement pas d'organisation qui forme ces chiens-là. Et donc, c'est pour ça que nous, en tant que parents, en tant que famille d'enfants diabétiques, plutôt que d'aller acheter un chien aux États-Unis parce que là-bas les chiens s'achètent, on a décidé et d'avoir une réponse uniquement individuelle, on a décidé d'avoir une proposition collective qui est de faire en sorte que ces chiens puissent être disponibles pour tous en France.
Donc comment allez-vous procéder avec votre association pour que dans un avenir proche des enfants diabétiques français puissent bénéficier de ce type de chien d'assistance?
Alors actuellement nous travaillons donc avec le docteur Jennifer Cattay qui forme des chiens d'assistance depuis plusieurs dizaines d'années.
Aux États-Unis.
Aux États-Unis, tout à fait, à Indianapolis, avec sa société Medical Mutts. On trouve son site sur internet, medicalmutts.com. Elle pratique, donc elle a plusieurs spécialités, les chiens de diabète, mais aussi les chiens pour l'épilepsie, ainsi que pour l'anxiété. On a donc présenté notre projet à Jennifer Cattay, et elle a accepté de travailler avec nous pour deux raisons. Un, effectivement, le fait c'est que on veuille travailler les chiens de diabète en France pour la première fois. Que deux, on associe à ce projet, on va dire technique, un projet scientifique, c'est-à-dire qu'on a mis en place des études scientifiques en partenariat avec des laboratoires et des services hospitaliers pour évaluer les capacités de détection des chiens et évaluer l'amélioration de la qualité de vie.
Et combien de temps faudra-t-il pour former ces chiens une fois les chiens pris en charge par des équipes compétentes pour les former, combien de mois ou d'années sont-ils nécessaires?
Alors, l'autre particularité dans le fait de travailler avec Jennifer Cattay, c'est qu'elle travaille aussi avec des chiens de refuge.
Ça c'est une très bonne chose.
Donc la formation du coup de ces chiens va durer de 4 à 6 mois. Puisqu'on va travailler sur des chiens qui sont déjà travaillés, qui ont de bonnes bases d'éducation.
Et votre objectif, c'est de remettre derrière ces chiens gracieusement aux bénéficiaires?
Tout à fait. L'idée, c'est de les remettre gracieusement, comme cela se fait pour la plupart des chiens d'assistance en France. Ceci étant, les familles, c'est une remise gracieuse, mais les familles sont fortement mobilisées, puisque nous allons former les chiens, mais nous allons également former les familles pour qu'elles maintiennent les acquis des chiens et elles participeront également au projet scientifique que nous mettons en place.
Et puis leur expliquer peut-être comment on vit avec un chien, parce que toutes ces familles-là n'ont pas peut-être cette expérience. Un dernier mot, Arnaud Bertrand, pour les gens qui seraient intéressés par ce projet, soit pour vous soutenir, vous aider ou pour bénéficier d'un chien d'assistance pour enfants diabétiques, comment peut-on rentrer en contact avec vous?
Alors, Pour les familles qui souhaitent disposer d'un chien d'assistance pour diabétiques, contactez-nous via le site web.
Donc c'est le site Acadia.
Acadia-asso.org. Enfin, on formera ces chiens si effectivement on développe encore notre structure et que l'on dispose de soutien financier. Donc comment nous aider? En apportant du temps, en apportant des compétences. C'est effectivement important pour qu'on puisse développer ce projet-là. Et puis également avec un soutien financier qui peut passer par l'adhésion à l'association. C'est une adhésion à 10 euros. Et si un grand nombre de familles qui supportent le projet adhèrent...
Bien sûr, il n'y a pas de petits dons. Arnaud Bertrand, merci infiniment. Merci de nous avoir apporté ce témoignage. On vous souhaite beaucoup de réussite dans ce très beau projet. Et quant à nous, on va tout de suite reprendre la direction de notre refuge SPA de Gennevilliers. Allô ?
Oui, bonjour.
Oui, rebonjour. Alors, est-ce que vous avez eu des petits contacts pour notre charmant Papilou ?
Oui, tout à fait. Pas mal d'appels, pas mal d'emails aussi.
Formidable, formidable.
Pour connaître son histoire un petit peu. Et du coup, on a invité les gens à venir directement au refuge rencontrer Papilou.
Eh bien, écoutez, c'est formidable. Ce week-end, ce sont les portes ouvertes de la SPA. Je vous invite donc tous à vous rendre sur le site de la SPA et à découvrir tous ces animaux à l'adoption. Merci à vous d'avoir été avec nous ce matin. On se retrouve dans quelques instants.